Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04 minutes, nous sommes mardi 17 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec encore un peu de pluie ce matin, faible, 11 degrés. Le mercure devrait atteindre 16 degrés, mais c'est une journée vraiment nuageuse. Les averses cessent en après-midi. Mais ça demeure couvert et assez venteux. Demain, mercredi, c'est du soleil 18 et retour de la pluie pour jeudi avec 14 degrés. Parlons d'abord de la guerre en Ukraine. Tout de suite, on va aller retrouver Tetiana Ogarkova, qui est journaliste et qui est toujours, bien sûr, près de la capitale. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, ce qui retient l'attention ce matin, c'est toute la procédure d'évacuation à Mariupol, plus précisément dans ce complexe à Azovstal. Il y a, dit-on, près de 250 militaires qui ont été évacués de l'usine.
Oui, tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Hier soir, donc on a reçu l'actualité que 53 militaires blessés ont été évacués d'abord à Novoazovsk, occupé. C'est une ville sur la, au bord de la mer, dans l'hôpital pour être hospitalisés là-bas. Ensuite, 211 ou 12, selon d'autres sources militaires ukrainiens d'Azov et d'autres troupes qui étaient sur place d'Azovstal ont été transférés à Olenivka, aussi le territoire occupé de la région de Donetsk, pour être échangés. Donc cette opération attendue depuis longtemps, en fait, depuis deux semaines, on était là à discuter, à rapporter voilà les malheurs qu'encouraient les militaires qui étaient entourés et bombardés en permanence à Azovstal. Aujourd'hui, ils sont à Olenivka. Malheureusement, on n'a pas d'autres détails. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a d'autres militaires à Azovstal qui sont encore à l'intérieur ou pas. Donc, on espère qu'un échange sera rapide et efficace. On a reçu l'information que l'échange sera égalitaire, c'est-à-dire que le parti ukrainien va échanger aussi le même nombre, en fait, des prisonniers russes qui sont détenus ici en Ukraine contre les militaires d'Azovstal. Pour nous, je répète, je ne cesse pas de répéter, ils sont les héros, ce sont les héros vivants. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de garder leur vie. Hier, il y avait la communication d'Azov, ils ont dit qu'ils suivent l'ordre de Zelensky, en fait, de la haute dirigeance militaire depuis. Donc, c'est un ordre de sauver les vies puisqu'ils ont déjà fait tout ce qui est possible. Ils ont empêché, justement, l'armée russe de progresser plus au sud, notamment vers Mykolaïv et Odessa aussi, puisqu'ils concentraient, la concentration de l'armée russe était très importante autour de Mariupol. Ils tenaient leur défense aussi longtemps que c'était possible. Il y a bien sûr des lourdes pertes aujourd'hui. Il est question de leur sauver la vie et de les accueillir comme héros ici en Ukraine.
Maintenant, il y a d'autres frappes qui touchent notamment des villes dans l'ouest du pays.
Oui, tout à fait. Cette nuit n'était pas du tout calme pour nous puisqu'il y avait des alertes aériennes. Il y avait deux durant la nuit. Donc, tout d'abord, il y avait quelques missiles qui sont partis dans la région de Lviv, plus précisément dans la région de Yavoriv, ce centre militaire qui était d'ailleurs était déjà touché avant, il y a quelques semaines. Donc tous les missiles, d'après ce que nous a dit la communication officielle, ont été détruits, mais les parties ont tombé. Ils ont détruit, endommagé, on va dire, les rails et aussi quelques maisons ont perdu les vitres. Après quelques destructions mineures ont eu lieu, sans blessés ni morts. Mais les habitants de Lviv nous ont rapporté qu'ils ont entendu plusieurs explosions, nombre 7, 8, 9, donc selon les quartiers. Donc heureusement, sans blessés et morts. Par contre, ce n'est pas le sort de village qui s'appelle Dysna, qui est à 80 km d'Oukiev, aussi un centre d'entraînement militaire où notamment, par exemple, mon cousin est médecin militaire depuis des années. Malheureusement, là, il y avait 4 missiles, dont 2 sont arrivés vers les immeubles. Plusieurs morts et plusieurs blessés, sans le chiffre exact. Pour l'instant, il n'est pas communiqué. Donc, malheureusement, là, on va avoir des nouvelles dans les heures qui viennent et qui ne seront pas du tout optimistes.
Merci beaucoup, Tatiana. Tatiana Ogarkova, qui est journaliste, qui nous parle en direct de l'Ukraine ce matin. Chez nous, bien évidemment, c'est le rapport de la coroner, Jeanne Kamel, qui s'est penchée sur les décès en centre de soins de longue durée. C'est un rapport, puis il faut toujours mettre ça dans le contexte, là. Elle ne cherche pas des coupables. Elle veut établir les circonstances de cette hécatombe et faire des recommandations. Il y en a 23 principales. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, dans le fond, que ce qui s'est passé, c'est le fruit d'années par l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés d'une certaine forme de négligence, d'un manque d'intérêt, d'un lobby des personnes âgées pas trop dérangeant, pas trop bruyant, et on a laissé aller. Donc, des bâtiments vétustes, manque de personnel chronique, et la décision de base au début de la pandémie de laisser les gens là-bas puis de préparer le réseau de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux. On était convaincus qu'on serait face à une crise majeure. On avait besoin de lits dans les hôpitaux. Donc, tout en étant conscient, parce qu'on ne pouvait pas l'être, qu'en gardant des personnes âgées dans des centres comme ça ou en envoyant des patients âgés dans des centres, c'était comme diriger les gens vers une zone à risque très élevé. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ces conclusions, donc des problèmes graves avant, on n'est pas étonné, critique contre des médecins, où elle dit que les médecins, pendant le début de la crise, étaient en télétravail. Les médecins ne se rendaient pas sur place. Et quand ils se sont finalement rendus, c'est pour trouver, au mois d'avril, des patients qui étaient déshydratés. Et le Collège des médecins s'est engagé à donner suite à la recommandation qui est de dire, là, quand vous avez des médecins en centre de soins de longue durée, il faut voir les limites du télétravail puis comment il faut encadrer ça. Et donc, le Collège a décidé de suivre ça. Également, on peut dire que le CIUS et sa PDG, Mme McVeigh, qui a lancé un appel, je dirais, digne d'une chorégraphie, au 911, ça s'inscrit davantage dans une volonté de se protéger. La ministre Marguerite Blais est épargnée. La coroner dit que c'est un discours formaté. Elle s'est fait tasser au début de la crise, mais que sa contribution, celle de sa chef de cabinet, se sont avérées utiles. Donc, Marguerite Blais a fait un travail qui mérite d'être souligné dans les circonstances. Mais je veux rappeler quand même que Mme McCann, avec le réflexe de la bureaucratie, nous a préparé un discours qui voulait cibler le mois de janvier, février ou plus tard, comme l'espèce de début de mémo vers les centres de soins de longue durée. Or, la coroner disparaît. Ils ont commencé à se préoccuper de ça au mois de mars. Donc, absence de gestionnaire, absence de protocole, problème de personnel, privé, public, là, ça débordait de tous les côtés. Et le cas Aaron n'était pas un cas inconnu pour la machine. Il est devenu public par le reportage de Aaron Derfeld dans The Gazette. Mais c'était connu qu'il y avait des problèmes puis que les employés ne se présentaient pas puis qu'il y avait... Et ce qu'elle souligne, puis ça, là, je prends 2 secondes ce matin pour insister là-dessus. Le rôle des Forces armées canadiennes qui ont débarqué dans des établissements, qui ont pris le contrôle, qui ont établi des protocoles et qui ont fait en sorte qu'on a pu comme vraiment avoir une méthode de travail efficace. Et rappelons-nous cette gêne maladive des dirigeants politiques de faire appel à l'armée quand on a besoin de leur service et qu'ils ont l'expertise puis la capacité d'aider. On a perdu je ne sais pas combien de journées précieuses avant de se résigner, parce que c'est le mot là, quand on les entend, de dire on va faire appel à l'armée. Or, la présence de l'armée envoie un message, dit la coroner. Il faut se préparer, il faut avoir un plan d'action musclé avec un objectif clair. Parce qu'au-delà de toutes les recommandations, là, de dire que le directeur de la santé publique doit être indépendant, donc pas participer aux conférences de presse, très bien ça. Mais c'est quoi le message le plus important de la coroner? Voici dans quel état étaient les centres de soins de longue durée quand cette pandémie a frappé. C'était intolérable, dit-elle, mais on l'a toléré. Et c'était intolérable depuis des années. Et j'ai fait l'autre jour le parallèle avec les changements climatiques. On le sait que les changements climatiques vont entraîner des bouleversements. Le ministre Guilbeault en parlait hier. Il faut revoir les plans d'infrastructure. Il faut mieux planifier. Donc, on le sait qu'il y a un vieillissement de la population, que ce vieillissement veut dire plus de dépenses. Il va y avoir plus de besoins. On n'arrête pas de dire qu'il faut mettre de l'argent dans les soins à domicile, garder le patient chez lui le plus longtemps possible. C'est quoi le plan de match de Québec? Ça ne peut pas être la maison des aînés, là. C'est très bien, c'est très beau, c'est très cher, c'est une distraction. Mais c'est quoi le plan pour... Et peut-être qu'il n'y en a pas de plan possible. Peut-être qu'on ne pourra pas s'occuper de toutes les personnes âgées à venir. Mais d'un côté, la planète change avec des impacts au quotidien, puis ça va s'intensifier dans les prochaines années. Puis le changement démographique, changement climatique, puis changement démographique. Et ce que le rapport nous indique, et je pense que c'est ça qui est le plus important, sommes-nous prêts? Avons-nous l'intention d'être prêts? Puis on est-tu capable de déployer une stratégie agressive pour faire face à ce problème-là? Merci beaucoup. Bon, on va plonger dans les dossiers Montréal concernant d'abord l'état de la coordination des chantiers à Montréal. J'ai vu ça ce matin un peu partout. Là, c'est le rapport de la vérificatrice générale, Mme Michèle Galipeau, qui a dû se promener en ville un peu là, et qui constate que c'est un échec colossal. On comprend qu'il faut faire des travaux, que la ville n'est pas la seule à creuser et à mettre des cônes orange, qu'il y a des chantiers privés. Je pense que la ville, c'est 30 % là, dit la vérificatrice. Le reste, bien, Bell, Hydro-Québec, Énergir, la Commission des services électriques, puis l'ensemble des chantiers privés, des grosses constructions. Alors, je vais la citer ce matin, vous retrouvez ça, entre autres, dans la presse, mais elle dit que l'approche déployée par la ville, soit par la mise en place de processus de planification et de coordination des projets, n'est pas pleinement efficace pour lui permettre d'avoir proactivement une vue d'ensemble des chantiers qui peut impacter son réseau routier et d'en minimiser les impacts pour les usagers. Autrement dit, on sait qu'il y a des chantiers, mais la job de planif, on ne rêve pas personne. On n'est pas dans des cas isolés. La ville n'est pas capable de planifier. La ville n'est pas capable d'aider l'usager. Puis ça implique le MTQ qui fait aussi un paquet de travaux. Puis toute la patente, là, l'espèce de structure qui s'appelle Mobilité Montréal ou Immobilité Montréal, c'est de la poudre aux yeux. Puis on le voit, puis on va le voir encore plus dans les prochaines semaines. Donc, pas de surprise là, on s'en doutait. Maintenant, le Journal de Montréal nous dit ce matin que les paddocks tout neufs qu'on a construits au circuit Gilles-Villeneuve ont des problèmes d'infiltration d'eau et de drainage. C'est un rapport confidentiel qui nous indique que cette structure-là, ces équipements qui ont coûté 60 millions, ont des problèmes quand même assez importants. Dans la portion fermée de l'immeuble, il y a des cas d'infiltration d'eau. Dans les étages de gradins, il y a de l'eau qui s'accumule. Il n'y a pas de pente qui permet de l'évacuer. Ça, c'est un. Puis que deux, après une seule course, il y a la ligne des puits qui a été réasphaltée. On peut comprendre là, que... Il y a certains travaux, mais ça n'a pratiquement pas servi à cause de la pandémie. Et déjà, mais comme beaucoup de structures, vous remarquerez que les travaux de construction, là, des correctifs pour des problèmes de drainage, d'infiltration d'eau, dès qu'il y a une structure importante, ça se produit assez souvent. Et puis l'autre affaire qui commence à être un petit peu troublante, c'est ce qui se passe à la Société de transport de Montréal. l'inspectrice de la ville, inspectrice générale, Mme Brigitte Bishop, ça fait plusieurs fois qu'elle tape sur les doigts de la STM en leur disant « Hey, vous n'avez pas l'air à comprendre comment ça fonctionne l'octroi de contrats publics. » Des manquements à répétition, au moins trois fois où elle a mis en lumière des pratiques qui ne sont pas acceptables. Et ça va de dépassement de coûts, puis un dépassement, là, on peut parler d'une explosion. Et aussi, cette affaire assez bizarre qui se passe à la STM ou qui s'est passée à la STM, où semble-t-il qu'un responsable de dossier était en conflit d'intérêts parce qu'il a donné des contrats à la firme pour laquelle sa conjointe travaille. Et semble-t-il qu'il n'avait pas informé ses supérieurs de ce conflit d'intérêts. Pour qu'il puisse donner ces contrats-là, il n'était quand même pas au bas de la pyramide. C'est qui, ça? Puis, donc, il n'a pas informé. Les contrats ont été donnés. Il semble qu'il n'a pas été sanctionné malgré le laxisme. Et ça, c'est un peu fatigant, là. C'est arrivé une couple de fois. Alors, disons que la STM a des devoirs à faire en termes de gestion de contrat puis de respect des règles de procédure. Parlons maintenant du marché immobilier. Que dire de plus? On le voit, les prix de l'essence augmentent, l'inflation. Bon, là, ce matin, dans le Devoir, on nous explique que la pandémie et je dirais également l'explosion des prix, pousse les gens vers la banlieue. Il y a une course à la surenchère. Selon les chiffres du Devoir, c'était 8 % des transactions immobilières il y a 5 ans là, qui faisaient l'objet vraiment d'une compétition entre propriétaires potentiels. Et cette année, la moitié des maisons vendues font l'objet d'une surenchère. Puis là, les gens commencent à trouver ça dur, même en banlieue, l'accès à la propriété. Ce matin, il y a des économistes qui font des prédictions dans le Globe and Mail qui prévoient qu'avec fin de la pandémie, hausse des taux d'intérêt, les maisons devraient connaître une baisse de prix, une baisse de valeur qui pourrait être importante, mais surtout à partir de l'an prochain. Remarquez que des analyses, il y en a de toutes les sortes. Également, on apprend concernant cette tuerie à Buffalo que le tueur raciste a laissé des traces sur le web, plusieurs endroits, sa participation à des forums concernant le grand déplacement. Et cette théorie qui veut que les Blancs soient tassés, que les minorités prennent le contrôle, que l'homme blanc américain est en péril, c'est ce qui l'a fait carburer. Pierre Poilievre est obligé de se désister de ce courant-là, mais il est propulsé aux États-Unis par des médias traditionnels comme Tucker Carlson, sur Fox News, on va en reparler avec Jean-François Lépine tantôt. Donc, ce tueur-là, c'est pas un geste spontané, c'est vraiment une tuerie qui était planifiée. Voilà pour la revue de presse, il est 6h presque 23.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Quand on lit le rapport de la coroner Jeanne Kamel concernant les décès, pour ne pas dire l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée au Québec pendant la pandémie, il y a des mots chocs qui nous viennent en tête. Des phrases comme « Nous avons accepté ce qui est inacceptable, nous avons toléré pendant des années ce qui est intolérable ». La coroner ne cherche pas des coupables, elle constate les faits, établit donc ce qui s'est passé et fait des recommandations. Tout ça, bien sûr, nous amène à parler de ce scandale qui a frappé la résidence Aaron. On sait que c'est le journaliste Aaron Derfeld, qui est journaliste spécialisé en santé, qui travaille pour Montreal Gazette, qui a mis ça sur la place publique et qui a amené évidemment toute cette prise de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur. Il est avec nous ce matin. Aaron Derfeld, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, quand vous lisez ce rapport, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la coroner?
D'abord, c'est un rapport exhaustif de 200 pages avec 23 recommandations solides. Mais je suis d'accord avec vous, M. Arcan, c'est un scandale, une honte nationale au Québec. Le fait que la maltraitance était tolérée même avant la pandémie, mais surtout pendant la pandémie et surtout dans la résidence Heron, où les résidents, les personnes âgées étaient abandonnées.
Je veux revenir avec vous sur certains éléments du rapport. Il y a d'abord le rôle des médecins. Et on découvre que ces médecins, trois médecins, là, qui ont fait pendant plusieurs journées du télétravail avant même de se rendre sur place pour voir ce qui se passait avec leurs patients.
Oui, ça c'était un peu choquant. C'était sûrement à la suite de l'article de la Gazette qui était publié que ces trois médecins ont décidé d'aller sur les lieux pour traiter des aînés. Et une des 23 recommandations est de revoir par le Collège des médecins la pratique de ces médecins. Ça, c'est une chose très importante. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, quand j'ai écrit que les résidents étaient abandonnés, comment se dit que les médecins ont refusé, pendant une crise sanitaire, de traiter des aînés dans cette CHSLD?
Parlez-moi du CIUS. La PDG est blâmée. Elle parle, suite à votre article, la coroner, là, d'un appel un peu bidon, pour ne pas dire théâtral, au 911. Les autorités publiques étaient conscientes de ce qui se passait à l'intérieur. Là. C'est pas, ils n'ont pas découvert ça là, après votre article. Ils étaient déjà au parfum. Là, de...
Oui, mais deux choses. Le PDG, Lynn McVeigh, en charge de CIUS de l'Ouest de Montréal, c'était vraiment intéressant le fait que la coroner Kamel a plus ou moins blâmé Lynn McVeigh. Donc, est-ce que sera congédié à la suite de ce rapport? C'est une bonne question. Mais s'il y avait un manquement dans ce rapport, le coroner n'a pas vraiment penché sur l'imputabilité des sous-ministres, des ministres en ce qui concernait leur agissement pendant la crise dans la résidence Heron. C'était une chose que j'ai trouvé un peu bizarre. La coroner a mentionné que Marguerite Blais, que son témoignage était le plus crédible. Mais dans un contexte plus large, rappelons au début de la pandémie, la première vague, le gouvernement voulait protéger les hôpitaux. Or, Mme Blais voulait des renforcements dans les CHSLD et il y avait un refus pour aider les CHSLD. Donc, la coroner a donné raison à Mme Blais. Mais au sujet de la résidence Heron, je pense qu'il y avait... la coroner, une des recommandations est que le gouvernement s'assure l'imputabilité des dirigeants des CIS et des CIUS. Mais pourquoi pas plus haut que ça? C'était quelque chose que j'ai trouvé un peu malheureux.
Monsieur Derfeld, j'aimerais qu'on revienne sur les témoignages, puis il y a eu aussi d'autres enquêtes. La situation dans les CHSLD, on s'en est préoccupé au mois de mars. Vous avez dit avec raison qu'on était obsédé par le réseau de la santé. On voulait sauver le réseau, on avait besoin des lits dans les hôpitaux. Et donc, contrairement à ce que Gendron, le sous-ministre, Mme McCann, on laissait entendre, là, c'est pas en janvier puis c'est pas en février qu'on a envoyé des directives claires au réseau pour qu'il se prépare dans les centres de soins de longue durée.
Oui, donc c'était, il y avait une mauvaise gestion dans ces installations et La coroner a comparé la situation au Québec avec Colombie-Britannique, dans laquelle il y avait une beaucoup meilleure gestion. Par exemple, les préposés aux bénéficiaires étaient interdits d'aller d'un CCD à un autre CCD. Le fait que pendant la crise à la résidence Heron, il y avait une zone rouge. Il y avait un refus de transférer où la PDG McVeigh a déploré le fait que les résidents étaient transférés à l'hôpital. Une situation vraiment troublante.
Aaron Derfeld, merci d'avoir été avec nous. Donc, il est le journaliste de The Gazette qui avait mis en lumière ce qui se passait dans cette résidence. Maintenant, nous allons regarder un autre volet de cette situation. Et parce que quand vous regardez le rapport en question qui est présenté, il est clair qu'il faut regarder l'avenir aussi. Et on voit ce vieillissement de la population, les besoins à venir d'une génération. Et est-ce qu'on va être prêt? Je parlais l'autre jour de changements climatiques qui sont inévitables, mais de changements démographiques aussi. Je vais en parler avec le docteur Kok-Din Nguyen, qui est gériatre et qui a fait partie de ce groupe d'experts là, nommé en 2020 pendant la pandémie là, pour voir ce qui se passe dans les milieux de vie pour aînés et pour la population. Docteur Nguyen, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, quand vous voyez le rapport, si on regarde à l'avenir un peu plus, est-ce qu'il y a des éléments dans ce rapport qui vont nous permettre d'améliorer, je dirais, la vie des citoyens vieillissants du Québec?
Absolument. Ça fait aucun doute pour moi qu'il y a parmi les 23 recommandations, là, la plupart peuvent faire une différence significative pour l'avenir des personnes âgées. La vérité, c'est que tous les rapports qui ont précédé, parlant des aînés aussi, que le grand défi, c'est pas juste les lire et dire qu'elles sont bonnes, ces recommandations-là, mais ça va être de les mettre en place rapidement, là.
Pourquoi, selon vous, on a eu tant de rapports qui avaient de si bonnes recommandations et que peu d'entre elles ont été mises en pratique?
C'est une excellente question. Je me la suis posée très, très fréquemment durant les différentes phases de la pandémie, surtout durant la première vague. Je pense pas qu'il y ait de réponse simple, mais souvent, la vérité, c'est penser aux personnes âgées et le vieillissement, souvent, c'est pas glamour. Là. On parle souvent on a souvent des lunettes roses de dire que tout va très bien aller, ou des lunettes très noires de dire que bon, ben, c'est le déclin, c'est la fin, ça sert à rien d'en parler. La vérité est entre les deux. Mais souvent, quand on parle des personnes âgées, on prend les lunettes noires et j'ai l'impression que ça nous repousse. Ça, c'est la première explication, à mon avis. La deuxième, c'est que c'est compliqué. Si vous lisez les 200 pages et vous regardez les recommandations, tout s'enchevêtre. Hein. On parle du ministère des aînés, le ministère de la Santé, on parle des CIS, des CIUS, des milieux de vie, des milieux de soins, des privés conventionnés, non conventionnés. Et parce que les personnes âgées sont une tranche d'âge, c'est pas juste une maladie. Ça vient avec tout ce qu'il y a autour, les proches aussi. Donc, quand on veut s'y attaquer pour de vrai, ben c'est pas en un an qu'on va régler le problème. Puis je pense que des fois, ça aussi, c'est décourageant pour bon, certains gouvernements ou le politique. Là.
On comprend qu'il faut développer, et ça aussi, on le martèle depuis des années, les soins à domicile, il faut que le patient demeure le plus longtemps possible chez lui. Avec votre expérience, est-ce que c'est possible de mourir à la maison pour une grande majorité des gens, ou si le passage en établissement est presque inévitable?
Ça dépend. La vérité, c'est qu'il y a une proportion de gens, encore là, prenons pas des lunettes noires ni roses, là, mais il y a une proportion de gens au Québec avec la structure démographique, le nombre d'enfants qu'on a, les femmes qui vont qui travaillent, qui accèdent au marché du travail en grand nombre. Il va toujours y avoir une proportion d'aînés qui auront besoin de soins de plus que 3 heures par jour et donc des CHSLD. Je pense que c'est tout à fait approprié. Ça serait l'erreur de penser qu'il n'y a pas de place dans l'avenir pour les CHSLD. Néanmoins, avec le vieillissement de la population, on attend plus de 500 000 nouveaux Québécois de 65 ans et plus dans les 10-15 prochaines années. Les 75 ans et plus vont doubler dans les 20 prochaines années. Ça fait dire que ça se peut pas qu'on va construire des CHSLD, des maisons des aînés à une quantité suffisante. Et donc, avant d'en arriver à avoir besoin d'autant de soins, il faut absolument qu'on ait soutenu les proches et les personnes âgées à la maison. Et de ce nombre, certains décéderont bien davantage qu'à l'heure actuelle à la maison. Et s'ils ne le font pas, ben, ils auront passé le plus de temps, c'est d'ailleurs le désir de la plupart des citoyens âgés, ils resteront et ils finiront jusqu'au maximum à domicile. Et souvent, dans cette phase-là de la vie ou des besoins, ça coûte moins cher que d'être en institutionnalisé. Là. Donc, c'est possible et c'est une des recommandations pour le gouvernement. Là. C'est la quatrième, augmenter l'offre de services pour le maintien à domicile. Et ça, c'est sûr que c'est une voie d'avenir. Là.
Mais je vous écoute et en même temps, on se dit, oui, on comprend que c'est le souhait. Est-ce qu'on aura les ressources, les services nécessaires, le personnel pour donner ces soins-là? Ça veut dire aussi pour l'ensemble des citoyens une prise de conscience, c'est-à-dire que vous aurez probablement un rôle à jouer auprès de vos parents vieillissants, comme vos enfants auront probablement aussi un rôle à jouer avec vous.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, là. Je suis absolument d'accord, en ce sens qu'il faut un game changer. C'est pas vrai qu'en faisant un peu plus, en optimisant ce qu'on a à l'heure actuelle, on va être capable de faire deux fois plus ou trois fois plus, là. Parce que c'est un peu ce qui nous attend. Donc oui, c'est multiniveau, là, c'est-à-dire soutenir les proches aidants. Tu sais, le mot devient très clérical, médical, gouvernemental, mais à la fin, c'est des enfants, c'est des proches qui s'occupent de leurs proches, qui leur permettent de rester plus longtemps à la maison. Ben, il faut les soutenir, ça c'est vrai. Mais après ça, des fois, ça devient trop difficile de le faire et il faut des ressources professionnelles. Et moi, je pense qu'il faut former davantage à s'assurer de la rétention et peut-être même créer, je l'ai déjà proposé, là, mais de créer un corps professionnel ou un corps de métier qui s'occuperait spécifiquement des personnes âgées. Après ça, il faut réduire la duplication et l'inefficience. Parce que je vous dirais, là, il y en a. Et je pense que l'informatisation peut aider. Et là, la Corner parlait d'avoir des bonnes données. Ça, je pense que c'est essentiel pour pouvoir faire face aux défis, à la lourdeur et à la grandeur du défi. Vous parliez des changements climatiques et je trouve que l'image est très intéressante au moins à deux égards. Un, la nature et l'importance du défi, mais ensuite la complexité. C'est pas vrai qu'on va réussir à contrer les changements climatiques uniquement par une solution. Ça va prendre que l'ensemble des acteurs y réfléchissent. Mais c'est la même chose avec le vieillissement. Il n'y aura pas une solution, ça va être l'ensemble des acteurs de la société qui doivent y penser. C'est d'ailleurs ça que j'ai beaucoup aimé dans le rapport de la coroner et dans sa conclusion. Elle note cette lentille aînée qui est essentielle.
J'allais vous dire, pas de lunettes noires, pas de lunettes roses, mais des lunettes au moins qui nous permettent de voir clair devant nous. C'est pas mal ce qu'on a besoin.
Tout à fait.
Docteur, merci beaucoup. Bonne journée.
Oui, bonne journée, au revoir.
Au revoir, docteur Kok-Din Nguyen, qui est gériatre et qui travaille au Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, aux surprises. La vérificatrice générale, de la Ville de Montréal, Michèle Galipeau, rend public son rapport. Et on apprend qu'il y a un problème grave de coordination au sujet de l'ensemble des chantiers. Parce qu'à Montréal, vous avez les chantiers de la ville, à peu près 30%, mais vous avez les chantiers de Bell, les chantiers d'Énergie, de la Commission des services électriques, plus tous les chantiers privés qui existent, la multiplication des cônes, évidemment. Et on se dit, il faut que ces travaux se fassent, mais en même temps, y a-t-il moyen que ça soit moins embêtant pour l'automobiliste? Le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville est avec nous, Aref Salem. Monsieur Salem, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Vous n'êtes pas surpris, évidemment, là, de savoir que, disons, que la coordination n'est pas au rendez-vous là, dans la planification des travaux?
Pas du tout. Vous savez, la nuit était très courte aujourd'hui entre le rapport de la vérificatrice générale qu'on avait à le lire après 10 heures le soir, puis le rapport de Big. En fait, il y a plusieurs constats dans le rapport, entre autres les coordinations au niveau du travaux de la Ville de Montréal. C'est un cafouillis total, total, total.
Pourquoi c'est un cafouillis, là? Puis ça a toujours été un cafouillis. Quand on n'est pas capable, là, peut-être vous pouvez me le dire, là, écoutez, rêvez pas en couleur, ça sera toujours le bordel.
Mais ça ne devrait pas être de cette façon. Vous savez, la Ville de Montréal, elle a mis en place une plateforme qui s'appelle Agir. Cette plateforme, aujourd'hui, nous constatons, d'après le rapport de la vérificatrice générale, qu'il y a un problème de communication qui existe entre la ville-centre et ses arrondissements. Je vais vous donner un exemple. L'arrondissement de Rosemont, là où il y a le président du comité exécutif qui est là. L'arrondissement du Sud-Ouest, là où il y a le vice-président du comité exécutif qui est là. La mairesse de Montréal qui est responsable de Ville-Marie. Trois arrondissements qui font partie du comité exécutif de la Ville de Montréal. Est-ce que vous savez, M. Arcan, que les trois arrondissements ne savaient même pas l'existence la communication n'existait pas entre la ville-centre et eux-mêmes pour une politique qui a été votée par le comité exécutif. C'est vraiment grave ce qu'on est en train de voir avec Agir.
Juste bien comprendre ce que vous me dites. Vous me dites que Mme Plante, M. Doré et c'est quoi l'autre, Rosemont, vous m'avez dit?
Oui, c'est Mme Dominique Olivier dans trois arrondissements de Projet Montréal.
Oui.
Ils n'étaient pas au courant des directives qui sont données par la ville-centre concernant l'occupation des axes de mobilité définis.
Ce sont eux, la ville-centre, puis ils ne savent pas ce qui se passe. En fait, ils ne transmettent pas l'information à leur arrondissement, c'est ça?
C'est eux qui sont responsables au comité exécutif de voter cette politique-là. Et leur arrondissement ne savent même pas l'existence de cette politique. Quand on est rendu à ce point, on est rendu, tu sais, le citoyen qui tourne en rond dans les villes de Montréal avec les cônes oranges un peu partout. Là, aujourd'hui, il peut comprendre que les choses ne tournent pas rond au niveau de la ville.
On a l'escouade de la mobilité qui existe. On a Mobilité Montréal qui existe. Des forums où tout le monde se réunit. Ça va du ministère des Transports aux autorités de la ville. Il me semble que les structures sont là. C'est parce que quoi? Ils ne se parlent pas vraiment? C'est du bidon? C'est quoi?
Effectivement. Le problème, je pense, c'est au niveau de l'utilisation des structures. Par exemple, Mobilité Montréal, moi, j'étais responsable du transport dans le temps. Et Mobilité Montréal, elle faisait son travail de coordination entre les travaux du MTQ, les travaux de la ville. Il y a aussi Agir. On peut travailler avec Agir entre les énergies, par exemple, les partenaires qui sont en ville. On peut exiger de ces partenaires-là de planifier leurs travaux sur 1, 2 ou 3 ans. Vous savez, à la ville de Montréal, en principe, on planifie 5 ans à l'avance les projets. Donc, si aujourd'hui on n'est pas capable de parler à nos partenaires et de les amener vers les plateformes qu'on est en train de payer avec l'argent des Montréalais pour rendre leur vie difficile, plus facile, il y a un problème. Il y a un problème de communication. Si les arrondissements qui font partie de la ville de Montréal ne sont pas amenés à communiquer avec la ville-centre pour mettre en place cette plateforme Agir, il y a certainement un problème avec ça. Et nous sommes en train de vivre ce problème en tant que citoyens à la ville. À chaque fois qu'on voit dans un secteur, on tourne en rond, on n'en peut plus finir pour trouver un stationnement, pour aller dans un restaurant, pour aller visiter quelqu'un, on tourne en rond comme ça se peut pas. Puis on le comprend aujourd'hui avec le rapport de la ville.
Oui, absolument. Merci, M. Salem. Aref Salem est le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. On a téléphoné à la ville. Malheureusement, il y a une nouvelle technique à la ville qui consiste à rendre public un rapport. Et comme il va être déposé à 13h, il n'y a personne de la ville qui peut parler avant. L'opposition peut, puis ils le font, là. Mais la ville n'est pas disponible. Fait que peut-être demain, on va nous sortir le génie de la lampe et essayer de comprendre ce qui se passe avec la ville. Mais c'est la maison des fous. Et souvent, je sais que mes amis à l'Hôtel de Ville disaient « T'exagères, c'est pas si pire que ça. » Bon. Mais là, c'est la vérificatrice qui parle directement d'un manque de coordination. Et je vous l'ai dit, ma théorie, c'est qu'on se fout de votre gueule, que les responsables de tous les programmes, tu sais, c'est beau, Agir, la mobilité, tu sais, des belles affaires, mais ces gens-là n'ont aucune préoccupation. Pensez-vous que quelqu'un a en tête l'automobiliste quand vient le moment de planifier la signalisation au MTQ, au ministère des Transports? Ils se trouvent bons. Fait qu'imagine-toi s'ils se trouvent bons puis qu'ils font des affaires de même. Comment peux-tu espérer un changement? Et là, j'ai hâte de voir la cassette formatée bien astiqué qu'on va nous servir sur la coordination, puis on va me sortir des chiffres du nombre de déplacements qui ont été faits de camions de livraison stationnant en double. On veut tout ça, là. Mais peut-être que la conclusion, c'est que c'est pas possible. Que c'est infernal, puis que ça sera toujours de cette façon-là, puis qu'on voit des entrepreneurs nous sortir leur compte bien longtemps d'avance, même s'il n'y a pas de travaux, et qu'on ne tient pas compte d'une vision plus complète d'un secteur quand vient le moment, justement, de donner les perles.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Presque 3 mois de guerre en Ukraine, la Russie qui obtient peut-être dans les dernières heures une victoire importante à Mariupol, une ville qui, vous le savez, a été complètement saccagée, bombardée. Jean-François Lépine est avec nous, mais Jean-François, d'abord, quelle sorte d'analyse on peut faire de cette guerre, de la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, donc après pratiquement 3 mois de confrontation?
Ouais, je pense que... Ben, d'abord, bonjour, Paul.
Bonjour.
Je pense qu'on peut faire le bilan un peu ce matin. C'est ça que je voudrais faire. Mariupol vient de tomber. En tout cas, le gouvernement ukrainien a concédé la victoire. La grande question, là, c'est l'enjeu de l'évacuation des combattants. Et ça, c'est pas... Ça va faire l'objet éventuellement d'un échange de prisonniers. C'est une situation qui est absolument pas réglée. Mais à quel prix, hein, la chute de Mariupol pour les habitants, comme tu l'as évoqué, mais pour la Russie aussi? Parce qu'après presque 3 mois de guerre, la situation pour les Russes est peu reluisante. Si on regarde l'ensemble du portrait, puis je vais vous le faire. L'armée russe, d'abord, selon la plupart des évaluations, aurait perdu environ un tiers de ses forces qu'elle avait sur le terrain depuis le début de l'invasion. C'est énorme. Les experts disent que Moscou a même réduit ses objectifs à la zone vraiment plus limitée, là, du Donbass à cause de ces difficultés-là. Il faut se souvenir, Paul, qu'au début, l'objectif, c'était de prendre la capitale Kiev, de soumettre le gouvernement, une sorte de guerre à la Blitzkrieg qui allait être extrêmement rapide. Donc, on voit l'échec relatif. Les deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv, et toutes leurs banlieues ont été reprises. On dit même que les Ukrainiens ont repoussé l'armée russe autour de Kharkiv au-delà de la frontière, à l'intérieur de la Russie, donc ampleur aussi importante. Sur le plan économique, la Russie continue à vendre son pétrole, ses hydrocarbures. On dit qu'elle fait $1 milliard par jour avec tout ça, mais les sanctions continuent et le pays s'en ressent. Hier, au cours des derniers jours, on a appris que McDo et Renault, par exemple, avaient annoncé la fermeture de toutes leurs opérations en Russie et la vente de leurs actifs. Donc, c'est important. Chaque jour, il y en a des mesures comme ça qui s'annoncent, qui se produisent. Et sur le plan diplomatique, c'est ça qui est peut-être encore plus grave pour la Russie à moyen et à long terme. L'agrandissement de l'OTAN, on l'a vu là hier encore, la Suède a confirmé sa demande d'adhésion à l'OTAN après la Finlande. C'est deux petits pays en termes de population, 15 millions d'habitants au total, mais c'est des territoires immenses à côté de la Russie. Ça a un impact très important. D'ailleurs, encore une fois, le président Poutine a dit que c'était une erreur et a menacé de représailles encore une fois. Ironiquement, au moment où tout ça se passe, l'OTAN organise ces jours-ci des manœuvres militaires importantes. On l'a vu à la télévision, entre autres, en Estonie, qui est un tout petit pays de la mer Baltique, mais dont la frontière est commune avec la Russie. Alors, on voit encore une fois la tension avec l'OTAN, les problèmes diplomatiques et géopolitiques de la Russie, mais pour en confirmer encore davantage l'existence, hier, M. Poutine recevait à Moscou les chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on appelle l'Organisation du traité de la sécurité collective. Alors, il y avait 6 pays au total en plus de la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Arménie. Ben, au cours des discours de cette rencontre-là qui ont été télédiffusés, le président du Bélarus a été le seul a évoqué la guerre en Ukraine. Il a même reproché à ses 4 autres collègues qui ne disaient pas un mot de ça, de manquer de solidarité. Je pense que si même les alliés traditionnels de la Russie n'osent pas s'en mêler, c'est un autre signal d'un isolement extrêmement grave de l'État russe dans cette guerre-là. Et il y a même, la BBC diffuse aujourd'hui une entrevue d'un colonel à la retraite à la télévision d'État russe dans une des émissions les plus importantes qui dit... Ça va être de plus en plus difficile pour la Russie parce que l'Ukraine est de mieux en mieux armée. L'Ukraine pourrait armer, dit-il, 1 million de soldats. Le moral est élevé chez les Ukrainiens parce qu'ils défendent leur pays, ils ont cette fierté-là. Et, dit-il, dit ce colonel à la retraite, la Russie est de plus en plus isolée politiquement.
Allons aux États-Unis pour parler de cette fusillade meurtrière, ce tireur raciste qui est entré dans un supermarché. Et plus l'enquête avance, plus on découvre finalement des documents qu'il a consultés, qu'il a laissés sur le web et qui montre l'ampleur d'un phénomène idéologique et dangereux, puis qui prend de l'ampleur aux États-Unis.
Aux États-Unis et même dans le monde, c'est ça qui est assez inquiétant, là. D'ailleurs, en passant, le président Biden doit se rendre à Buffalo aujourd'hui avec, en principe, son épouse avec lui. Il a parlé hier d'une attaque motivée par le racisme et le suprématisme blanc. Et tout ça est lié, effectivement, Paul, à ce que tu dis. On a découvert en ligne un texte imposant, écrit par Peyton Gendron, le meurtrier de Buffalo, qui dit s'être inspiré, entre autres, des massacres des deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Tu te souviens de ça, on se souvient de ça. Et ensuite, quelques mois plus tard, d'un massacre à El Paso, Texas, il se dit ouvertement raciste et antisémite. Mais ce qui est important, c'est que le texte s'inspire d'une théorie qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une théorie complotiste qui accuse les élites américaines, surtout les démocrates, de chercher à diminuer l'influence des Blancs aux États-Unis en favorisant l'immigration massive et le remplacement des populations blanches par des populations étrangères qu'on dit plus dociles et surtout plus favorables aux idées progressistes comme celles des démocrates. Donc, c'est une sorte de vision un peu paranoïaque où on dit on vise à éteindre notre influence aux États-Unis, d'où la volonté du meurtrier de Buffalo de s'attaquer à des Afro-Américains dans une épicerie populaire d'un quartier à majorité noire de Buffalo. Et il avait, on le sait à cause de tout ce qu'on lit, qu'il avait le projet de se rendre à deux autres endroits au moins pour faire la même chose. Donc, c'est effectivement une théorie qui pousse au radicalisme. C'est une théorie, par contre, qui est véhiculée ouvertement. Il y a un animateur aux États-Unis que tu connais, qui s'appelle Tucker Carlson, une vedette de Fox News, qui, lui, sans retenue dans son émission quotidienne, évoque cette théorie-là de façon extrêmement ouverte. Le phénomène a été dénoncé par Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, qui dit que les leaders républicains, on rappelle qu'elle est elle-même républicaine, que les leaders républicains ont rendu le suprémacisme excusable. Donc, on en parle publiquement, puis c'est comme ouvert. Et puis, il y a aussi, c'est intéressant, l'avocat Ben Crum. C'est l'avocat qui avait représenté la famille de George Floyd, on s'en souvient, et qui représente maintenant une des familles des victimes de Buffalo, et qui dit que Gendron, donc le meurtrier, devrait être accusé de terrorisme domestique. Donc, cessez de banaliser ce genre de crime qui est de plus en plus motivé par l'idéologie. Puis, pour donner une ampleur du phénomène aux États-Unis, là, de ce que les gens croient aux États-Unis, ben, un récent sondage de l'Associated Press montrait qu'un tiers des Américains, Paul, pensent que les Blancs sont en train de perdre le contrôle du pays. C'est extrêmement important. Puis, c'est pas un phénomène limité aux États-Unis. Entre autres, hier, Pierre Poilievre, qu'on connaît bien ici, a été obligé de se dissocier de cette théorie-là. Pourquoi? Parce qu'il avait été un peu mis en accusation par Patrick Brown, un autre candidat à la direction du Parti conservateur, qui rappelait que Pat King, un des meneurs du Convoi de la liberté, était un propagandiste ouvert de cette théorie du remplacement. Et M. Poilievre avait appuyé, on s'en souvient, le mouvement. Donc, avait-il un lien ou non avec cette idéologie-là? Il a dû s'en défendre.
En terminant, un mot sur cette manifestation très symbolique en Chine contre la tolérance zéro face à la COVID.
Oui, ça s'est passé dimanche à l'Université de Pékin, là, qui est la grande université, le Harvard chinois. Les étudiants sont sortis de leur dortoir pour manifester. Les images vidéo ont fait le tour de la Chine, jusqu'à ce que les forces de sécurité bouclent l'université et le web. Mais c'est un signe de plus en plus, comme il y en a de plus en plus en Chine, de l'impatience de la population qui n'hésite pas à s'exprimer ouvertement contre la politique absurde du gouvernement chinois qui vise à éliminer totalement la COVID en enfermant systématiquement les populations avec tous les problèmes que ça implique. Manque de nourriture un peu partout en Chine, une économie qui est de plus en plus en décroissance, mois après mois. Il faut imaginer que plus de 40 villes sont partiellement ou en totalité fermées en Chine. Et c'est important parce qu'on l'a vu avec les étudiants, Pékin est la prochaine étape. Il y a de plus en plus de confinements de quartiers. Ça s'accroît chaque jour. Donc, c'est une crise qui semble être vraiment mettre le gouvernement en difficulté en Chine de plus en plus.
Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée.
Bonne fin de journée.
Voilà, c'était Jean-François Lépine.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, est-ce que vous rêvez de voir Montréal joindre les rangs des grandes villes où c'est possible de s'amuser toute la nuit? On peut penser à Berlin, on peut penser à Paris, on peut penser à Londres. Là, on apprenait hier qu'on va faire un espèce de projet pilote. On va consulter les gens. Mais je sais que ça provoque deux réactions. Des gens qui sont heureux en se disant « on va pouvoir fêter », puis d'autres qui disent « pas dans mon quartier, pas dans le coin, pas dans l'arrondissement ». Mathieu Grondin est directeur général de Montréal 24 sur 24. Monsieur Grondin, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Bon, le sommet de la nuit, c'est quoi ça au juste? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir?
Le sommet de la nuit, on a commencé ça l'an dernier. C'est une série d'événements, de conférences, d'ateliers, discussions autour de la nuit, qui aborde la nuit de plein d'angles différents, que ce soit l'urbanisme, la culture, l'économie, la santé, le tourisme, entre autres. Ça dans le but de s'éduquer, de voir aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs, de s'inspirer des pratiques internationales. On a près de 25 panélistes internationaux qui vont nous joindre jeudi et vendredi au Monument National.
OK. Une fois qu'on fait tout le placotage là, puis les consultations, l'objectif, c'est quoi?
Ben, l'objectif, c'est la ville a pris l'engagement de se doter d'une politique de la vie nocturne. Ça fait presque 5 ans maintenant. Donc là, hier, on a annoncé que ça allait être fait l'été prochain. Donc, le but, c'est d'avoir une politique de la vie nocturne qui va réviser le cadre réglementaire qui régit les activités nocturnes. Donc, on peut penser, oui, aux heures d'ouverture ou de fermeture des commerces, des bars, des salles de spectacle, mais aussi une révision du règlement sur le bruit, une révision du zonage, la mise en place d'escouades de médiation, etc., etc.
OK, mais que je comprenne encore mieux, là, l'idée, là, le point ultime, c'est d'avoir une vie nocturne où je peux aller dans un bar à 5 heures du matin, où je peux aller dans différents types de commerces qui voudront bien être ouverts. Autrement dit, que la ville ne dorme pas.
Ben, il y a deux objectifs. Oui, il y a cet objectif-là de dynamiser le secteur de la vie nocturne à Montréal pour le mettre au diapason des autres grandes métropoles du monde, mais aussi d'améliorer la cohabitation entre les usages nocturnes puis les usages résidentiels. Parce que nous, on pense qu'en changeant ce cadre réglementaire-là, c'est possible de faire les deux, de dynamiser et d'améliorer aussi la qualité des résidents.
OK, mais là, comment vous allez rassurer les gens qui habitent dans certains quartiers? Puis là, tu habites en ville, puis si tu habites au centre-ville, ben tu t'attends un peu à ça, là, mais qui ont peur là, de voir les décibels se faire entendre?
Ben, moi, ce que je vous dirais, c'est que s'il y a un problème de bruit à proximité de chez vous, il va être là à 11 heures le soir comme à 5 heures le matin. Hein? C'est pas ça qui change grand-chose. Nous, on pense que justement, en gardant les espaces, les lieux de diffusion ouvert plus tard, ben on mettra pas tout le monde dehors en même temps à 3 heures du matin parce qu'il y a là le problème en ce moment. Les gens sortent tard, plus tard qu'il y a 20, 30, 40 ans. Ils arrivent à minuit et demi d'un bar, ils se commandent 10 shooters, 4 bières, et en 2h30, ils ont bu ça, sont chauds d'ail. On les met tous dehors en même temps sur le boulevard Saint-Laurent à 3 heures du matin, puis c'est là que les problèmes commencent. Donc, si on les laissait sortir tranquillement un après l'autre, ben on pense qu'on aurait moins de nuisances à ce niveau-là.
Là, j'ai vu que ça va être lancé par ce qu'on appelle un micro ouvert à la Tulipe le 18 mai. Avez-vous parlé aux voisins de la Tulipe pour savoir si vous le dérangez?
Le micro ouvert, c'est une activité de participation citoyenne. C'est une assemblée citoyenne autour du thème de la nuit. Tout le monde est invité, tous les résidents de Montréal, dont les voisins de la Tulipe, oui, pour venir livrer un témoignage sur leur expérience de la vie nocturne, que ce soit positif ou négatif, leur vision du futur, les problématiques, les solutions. Et c'est le Conseil de nuit de Montréal 24-24 qui va les écouter pour ensuite rendre compte de la teneur des discussions à la Ville de Montréal afin de s'assurer que la future politique de la vie nocturne soit en phase avec les besoins du milieu.
OK, je vous écoute, là, consultation, je disais placotage tantôt, il me semble que c'est pas trop votre style, là, je vous connais pas, c'est plus quelqu'un qui doit dire, bon, voici le plan, puis moi, je pense qu'on devrait s'inspirer de telle ville. Donc, ma question, c'est quelle ville vous inspire actuellement pour qu'on ait une référence en tête?
Ben, vous les avez un peu nommés, hein? Berlin, Amsterdam. Amsterdam, surtout, je pense que en 2012, ils ont fait le switch vers des permis 24 heures. Ils ont installé, ils ont octroyé ces permis-là à des espaces culturels qui étaient excentré du centre, parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes dans le centre-ville d'Amsterdam. Ils ont demandé, pour avoir ces permis-là, ben ça prenait une programmation locale. Donc, ça a été fait de manière très responsable et durable, C'est, puis une des personnes qui a mis en place ces permis-là, Mirek Milan, qui est l'ancien maire de la nuit d'Amsterdam, sera présent au sommet jeudi pour livrer une présentation là-dessus et expliquer comment il s'est pris.
Merci, M. Grondin. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. J'allais vous dire bonne nuit. Mais donc, c'est Mathieu Grondin, qui est le directeur général de Montréal 24 sur 24. Tu sais, parce que je comprends les consultations et tout, c'est bien beau, là, mais tu dis, OK, vous inspirez d'eux, puis qu'est-ce que vous voulez? Puis disons que l'image sur la sortie à 3 h du matin sur Saint-Laurent, c'était impeccable.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.